sur Radio Galère au 88.4 dans l'émission Et si on s'écoutait, un tout nouveau format pour cette rentrée qu'on vous a présenté le 3 octobre dernier. Nous sommes le mardi 5 décembre 2023 et nous serons ensemble de 21h à 22h. L'émission sera diffusée jeudi de 9h à 10h. Le podcast, lui, sera disponible sur le site de Radio Galère dans quelques jours. Dans cette émission Et si on s'écoutait, nous recevons aussi bien une personne qui, par son chemin de vie, explore la relation à l'écoute, ou bien, comme ce soir, nous recevons un acteur de la société qui œuvre pour l'écoute et le bien-vivre ensemble. Il peut s'agir d'un acteur culturel, artistique, associatif ou même sportif. L'idée est d'illustrer par l'action ce que veut dire s'écouter, créer du dialogue dans la société. Je suis Chloé Lenders et je suis accompagnée de Marion Milsan et de Marion C en studio et de Sidi en régie. Bonsoir les filles.
Bonsoir. Hello.
Je suis très heureuse de vous retrouver pour accueillir ensemble nos invités, Sophie Deschamps et Olivier Arnera, qui vont nous parler du Parvis des Arts de Marseille où ils interviennent. Bonsoir à vous deux.
Bonsoir.
Bonsoir.
Alors, le Parvis des Arts, un lieu culturel composé d'un théâtre, un lieu d'art, de partage, et qui est cette année aussi une maison dédiée à la parole. Vous allez nous en parler pendant une heure ensemble, on va en parler, remettre la parole au goût du jour avec plusieurs arts, l'éloquence, la rhétorique, l'improvisation, peut-être l'écriture, vous nous en parlerez un peu plus. En tout cas, le Parvis des Arts qui remet au centre de son action l'écoute comme notre émission. Alors bonsoir à vous deux, on est vraiment ravis de vous recevoir. Avant de rentrer dans le cœur de l'émission, on voudrait juste un peu prendre la température. Comment allez-vous avec ce froid à Marseille? Comment vous sentez ce soir?
Moi je vais très bien, j'arrive de la montagne où il faisait beaucoup plus froid, donc c'est avec plaisir que je retrouve Marseille.
Et moi aussi je suis en pleine forme, je sors justement du Parvis des Arts, où je faisais travailler un élève en cours particulier, et vous savez un cours on donne, on reçoit, et moi je suis très nourri par les textes qu'il a commencé à apprendre par cœur, c'était très, très intéressant.
Super, donc l'énergie plutôt haute ce soir en studio, c'est super avec nos invités. Pour peut-être que nos auditeurs vous apprennent à vous connaître, comment vous avez envie de vous présenter à eux justement ? Sophie, peut-être, pour commencer.
Comment me présenter ? Me présenter comme quelqu'un qui, depuis peu, a changé totalement de vie, depuis un peu moins d'un an, qui, pendant 32 ans, a été passionné par son métier et qui s'est découvert depuis quelques années, grâce à Olivier, une nouvelle passion qui est l'art oratoire, le plaisir des mots. Plaisir des mots, l'amour des mots que j'avais depuis longtemps, mais que j'ai encore plus découvert il y a maintenant 7-8 ans. Et donc je suis aujourd'hui, j'aime à me définir comme une amoureuse des mots et une passeuse de textes.
C'est plein de poésie.
J'adore.
C'est périlleux comme question, hein, de définir qui on est. Oui. On est un peu obligé souvent de dire qu'est-ce qu'on fait pour essayer d'exprimer ce qu'on est, mais on sait bien que ce n'est pas par ça qu'on dit énormément de choses. Mais je vais quand même essayer de vous dire ce que je fais. Alors, je me suis défini, ou on m'a défini, comme un homme de théâtre. J'aime bien cette idée parce que dans mes activités, je suis à la fois metteur en scène, je suis formateur, je suis écrivain, je suis dramaturge, je suis comédien, et ceci depuis près de 40 ans. Mais ce qui ne me va pas vraiment dans ce mot théâtre, c'est que théâtre, dans l'étymologie d'ailleurs, en grec, théatro, ça veut dire ce qui se regarde. Au théâtre, on vient voir, on vient regarder. Or, moi, mon évolution artistique, justement, passe du monde de ce qui se regarde, ce qui se donne à voir, à ce qui se fait entendre. Et donc, je me dirais plus que je suis un homme de la parole qu'un homme de théâtre, puisque nous sommes en train d'évoluer justement de ce lieu du théâtre ou au lieu de la parole.
C'est une belle introduction.
Mais du coup, moi, ce qui m'intéresse là, c'est que... Bon, alors du coup, Sophie, enfin, moi, j'ai aussi plein de questions, du coup, de qu'est-ce qu'était votre métier avant, il y a un an quasiment? Quand est-ce que vous avez découvert cette nouvelle passion? Qu'est-ce qui a fait que vous avez décidé de changer?
J'ai commencé à pratiquer, alors je cherchais depuis très longtemps des endroits où je pouvais dire des textes à voix haute, et j'avais beaucoup de mal il y a 7-8 ans à trouver quelque chose à Marseille. Je cherchais de la lecture à voix haute au départ, et puis je suis tombée par hasard sur le Parvis des Arts et Olivier, à ce moment-là, commençait à donner les cours d'art oratoire dont il vous parlera un peu mieux. Et donc sinon, ce que je faisais avant, bah, j'étais dans un métier plutôt tourné vers l'économie puisque je travaillais pour une grosse institution marseillaise, l'entreprise des entreprises, la chambre de commerce, et où j'ai œuvré avec passion pendant 30 ans. Et puis, voilà, des cours hebdomadaires, un peu plus, la mise en place d'un seul en scène avec Olivier en tant que metteur en scène et en tant que conseil, qui m'a fait dire que, en fait, c'était lorsque j'étais sur scène et au Parvis des Arts que je me sentais chez moi et que je me sentais en phase avec ce que j'étais, ce que j'avais envie de faire. Non pas que je n'aimais plus ce que je faisais, mais j'avais envie de passer à autre chose. Voilà.
Et donc, c'est là que vous êtes rencontrés au Parvis.
Au Parvis.
Exactement.
C'est ça.
Il a été ton enseignant, je ne sais pas comment on peut dire.
J'ai l'habitude de dire qu'il est mon maître.
Oh. Pas de pression, Olivier.
Est-ce que ça te va, Olivier, quand même ?
Évidemment, ça fait toujours plaisir. Mais non, en fait, je pense que nous sommes... C'est ce que je disais un peu au début quand je disais, voilà, je suis nourri par un cours. Et cette relation maître-disciple, il y a toujours un peu une question de hiérarchie qui est là-dedans, que je dépasse vraiment dans l'idée où nous sommes... les uns et les autres, des explorateurs, que chacun a son chemin et qu'il n'est absolument pas question d'une hiérarchie. Par contre, il est question, c'est là où ça rappelle peut-être le lien maître-disciple, il est question d'une transmission. Alors oui, je transmets.
Et du coup, tu viens du monde de l'art?
Oui,
okay.
Le monde du théâtre précisément.
D'accord. Et comment tu es passé du coup du théâtre à l'art oratoire? Parce que, ben, en tout cas, moi personnellement, je suis novice, donc du coup... Quelle est la différence, quel est le chemin en fait qui t'a conduit du théâtre classique tel qu'on se l'imagine quand on imagine une pièce de théâtre à l'art oratoire tel que vous le pratiquez, je crois, au Parvis des Arts?
Alors, je crois que d'une certaine manière, notre évolution a précédé un petit peu ce qui s'est passé dans la société. Vous savez, il y a quelques 10 ans, 20 ans, quand on parlait de théâtre, en grande partie, toujours, on parlait des arts de l'espace, des arts du corps, des arts du jeu. C'est là-dessus qu'on insistait beaucoup. Et le texte lui-même était un peu mis de côté. Pas partout, hein, évidemment, dès qu'on généralise, c'est faux. Mais en tout cas, souvent, le texte était un peu le dernier servi dans le théâtre. Or, moi, ce qui m'intéressait de plus en plus, c'est de faire entendre ce que les écrivains disaient et aussi de faire en sorte que dans une société où la parole est en crise, on en reparlera peut-être, mais dans une société où justement on a tellement de mal à sortir des discours préfabriqués, des discours tout empaquetés d'avance, mais de prendre la parole en son nom, il s'avère que ma propre évolution, qui est passée par toutes sortes de disciplines différentes, d'où aussi la psychanalyse, hein, je suis passé là, m'a permis de penser que depuis le théâtre, il était intéressant d'aller dans ce lieu où on invite chacune et chacun à prendre sa parole, sa propre parole, non pas essayer de jouer un personnage, mais prendre sa propre parole, parler en son nom, mais aussi servir au mieux le texte des grands écrivains et des grands auteurs. Donc, il y a résolument une évolution. Et aujourd'hui, je suis toujours dans le théâtre, mais plus précisément au service donc, de la parole.
Et les personnes qui viennent au Parvis des Arts, est-ce que vous avez vu, notamment ces dernières années, une envie vraiment de... je sais pas, d'améliorer vraiment sa présence à l'autre, de porter sa voix, d'essayer de se faire bien comprendre et... Est-ce que c'est quelque chose qui a toujours été le cas depuis que vous enseignez ou est-ce que ces dernières années, c'est d'autant plus flagrant ?
Alors, véritablement, merci de poser cette question parce que je crois qu'il y a une tendance très lourde dans la société depuis une petite dizaine d'années. Moi, je sais que quand j'ai lancé le premier cours de prise de parole au Parvis des Arts, l'administratrice du théâtre, il y a quelques années, me disait « Mais tu lances ça, mais on n'aura personne, ça n'intéresse personne, etc. » Et j'avais même le mot « art oratoire » n'était absolument utilisé par personne. Et j'ai lancé ce mot « art oratoire ». Et puis tout d'un coup, on a senti qu'il y a quelque chose qui basculait dans la société. Peut-être c'est qu'à force d'être sous la domination de l'image, dans le règne encore une fois, de discours préfabriqués, tout d'un coup, il y avait un désir, mais si on commençait à se parler, si on recommençait à se parler, et je suis étonné à quel point, bon, il y a eu aussi des réformes, par exemple la réforme du grand oral, pour le bac, pour le brevet, où tout d'un coup l'oralité revient en force. Et on retrouve cet amour des mots, cet amour de l'expression qui, moi, m'enchante. Et il y a véritablement, oui, pour vous répondre clairement, un intérêt tout à fait différent aujourd'hui. En 10 ans, ça a changé, c'est incroyable.
Et est-ce que pour toi, Olivier, mieux parler permet aussi de mieux s'écouter ? Ou peut-être c'est le contraire, ou peut-être...
Alors, oui, je dirais que pour moi, la transmission, pour moi, parler se joue, se vit dans l'écoute. La plupart du temps, aujourd'hui, on parle vite, sans penser et sans écouter. Et pour moi, ça, c'est un discours complètement creux. C'est exactement l'inverse de ce que nous vivons en ce moment. Souvent, d'ailleurs, dans les médias, ça parle très vite. Ça parle pour ne pas penser, à la limite. Et en fait, prendre le temps de penser, de parler, est complètement lié à l'écoute. Ce que nous travaillons avec nos élèves au Parvis des Arts, c'est qu'il y a véritablement... la parole, c'est une relation. Une relation avec soi-même et avec un auditoire. Il y a Paul Claudel qui dit cette phrase incroyable, qui dit « L'œil écoute, l'œil écoute ». Et quand nous sommes en scène, que nous disons un texte, que nous parlons, il se passe de manière extrêmement forte et inconsciente une écoute de l'auditoire. Ça, je peux vous en parler, c'est passionnant, je pourrais vous en parler des heures. C'est-à-dire que vous dites un texte, et puis tout d'un coup, vous dites un texte qui a été écrit, puis d'une certaine manière, vous le mettez debout, ce texte, et vous le dites. Et là, tout d'un coup, un silence d'écoute qui est là, qui est incroyable. En fait, c'est une expérience unique où vous parlez à un auditoire qui est là, et il y a ce lien d'écoute. Et puis tout d'un coup, quelqu'un dans l'auditoire peut faire un geste, parler, et puis vous commencez une discussion. Et alors oui, évidemment. Alors je dirais aussi que moi, je suis particulièrement sensible à ce lien entre la parole et l'écoute, parce que je suis passé, par ailleurs, par l'aventure de la psychanalyse. Et j'ai été formé en tant que psychanalyste, d'une certaine manière. Et donc je suis particulièrement sensible aussi à ce qui, dans la parole... s'entend, à ce qu'on peut entendre, à ce qu'on peut écouter à travers ce que nous disons les uns et les autres. Donc là aussi, j'ai eu cette expérience incroyable d'être à un moment, d'être plein de mots qui n'étaient jamais dits, de me retrouver dans un fauteuil ou dans un divan ou sur un divan, et tout d'un coup, de laisser parler et d'entendre enfin quelqu'un qui écoute. Et ça, c'est une expérience unique. C'est unique. Parler, écouter, et c'est complètement lié. Donc je pense que oui, la parole et l'écoute, ça va vraiment ensemble.
Moi j'ai une question, c'est plutôt une question de définition, mais je suis un peu novice sur qu'est-ce que l'art oratoire, tout simplement. Donc peut-être est-ce que tu pourrais en fait le définir pour nous expliquer vraiment qu'est-ce que ça englobe ? Et aussi, je vais enchaîner sur une autre question qui est un peu liée sur les définitions. On a parlé du Parvis des Arts. Peut-être qu'on peut présenter en fait quel est le rôle du Parvis des Arts pour les personnes qui ne connaissent pas.
Alors peut-être, puisque j'en suis le fondateur, très rapidement vous parler du Parvis des Arts et après on passe à la question.
Ça marche. Alors,
le Parvis des Arts, bah, c'est dans le titre. Le Parvis, qu'est-ce que c'est qu'un Parvis ? C'est un lieu entre deux lieux. Le parvis d'une mairie, le parvis d'une cathédrale, c'est un lieu, c'est une place, c'est un espace entre un endroit et un autre. Et ce qui est très intéressant, c'est que, par exemple, le théâtre est sorti au Moyen-Âge. À l'intérieur des églises, on faisait les mystères. Et à un moment, le théâtre est sorti de l'église pour aller jouer sur le parvis. D'accord ? Le parvis, un lieu passage, un lieu où on converse, c'est un lieu justement un lieu important entre le monde de l'art, le monde symbolique, le monde... Et puis la vie en société. Donc j'ai tendance à dire que pourquoi on a choisi ce titre, c'est parce qu'on aime bien un parvis, c'est un lieu où on se prépare à entrer dans une autre dimension. Et c'est ce que beaucoup de gens viennent vivre pour entrer dans la dimension artistique. Il y a besoin d'un sas, d'une certaine manière, d'un passage de sécurité, d'un lieu entre. Et donc, c'est le parvis. Et des arts, c'est parce qu'à l'intérieur du parvis des arts, on a eu plusieurs expressions artistiques. Dans le passé, on a eu de la sculpture, de la peinture, du gospel, de la musique, enfin, toutes sortes d'arts. Et puis, en avançant, en évoluant, on a voulu se consacrer plus précisément aux arts de la parole. Et j'en arrive à l'autre question. Qu'est-ce que c'est que l'art oratoire?
Donc, il a été fondé en quelle année, le Parvis?
La première saison que nous avons lancée, c'est 94. Donc, on y est arrivé à peu près 2 ans avant. Voilà.
Peut-être dire aussi qu'au Parvis des Arts, il y a la compagnie SketchUp qui a été créée par Olivier, c'est et qui ça. En est aussi quelque chose de fondateur.
Oui, tout à fait. On est des fondateurs. Au départ, c'est une bande de jeunes idéalistes qui achètent un grand bâtiment. Voilà.
Je ne savais pas du tout.
Une très, très belle histoire. Ouais, c'est une très, très belle histoire. Vraiment des jeunes qui ne se doutaient absolument pas, qui ne doutaient de rien d'ailleurs, qui n'avaient pas d'argent et qu'on est arrivé à trouver les moyens, les finances pour on était dans les années 80, hein, c'était et il y avait une énergie qui était là et on a acheté un théâtre, on a acheté et on l'a fait.
C'est compagnie... ouvert à tout le monde.
Ouais. Oui, c'est vraiment ouais, c'est vraiment ouvert à tout le monde, vraiment.
D'accord.
Cette Alors, compagnie n'existe plus.
Pardon ?
Cette petite bande de copains.
Mais bien sûr, elle existe. Ah, mais enfin.
Marion, qu'est-ce que tu dis ?
Tout. comment on dit ? Pas encore mort, en tout cas. Non, il y a un autre titre qui dit... enfin, je sais pas. Voilà, en tout cas, oui, on est bien vivant. Non, même pas mort, c'est ça que je cherchais.
Ah oui, non, mais je n'allais pas jusqu'à là. Voilà.
Et d'ailleurs, en février, ils joueront leur tout nouveau spectacle, bien dit, au Parvis des Arts.
Voilà, c'est ça, exactement.
Ok, on y sera.
Ouais. Donc, attention, ça y est, c'est inscrit.
Ah, j'y vais.
Alors, donc, oui, de ces 18 jeunes que nous étions au départ, il y en a encore 6 qui sont encore là.
D'accord, donc, quand même.
Ouais, c'est quand même pas mal.
Ouais, c'est pas mal.
Enfin, les autres sont encore là, mais en tout cas, ils ne sont plus dans le théâtre.
Voilà.
Alors,
L'art oratoire.
Ouais. Alors, l'art oratoire, déjà, commencer par dire ce que ce n'est pas. Ce n'est pas la prise de parole en public, par exemple. Ça en fait partie. Mais aujourd'hui, vous avez des stages et des cours de prise de parole en public. Apprenez à parler en public en 2 jours, en 3 jours. On vous donnera toutes les techniques, tous les secrets. La prise de parole en public, oui, ça fait partie de notre travail, mais ce n'est pas de l'art oratoire. Qu'est-ce que c'est que l'art oratoire ? L'art oratoire, ça remonte au 1er siècle avant Jésus-Christ, ça remonte à Cicéron, qui en fait, Cicéron écrit « De oratore » de l'orateur. Et qu'est-ce que c'est à l'époque ? Eh bien, c'est apprendre aux citoyens, et j'insiste sur le mot « citoyen », leur voix pour la démocratie est extrêmement importante. Alors, les jeunes, on les forme à toutes sortes de techniques qui vont leur permettre de prendre la parole en public. On leur apprend la rhétorique, comment parler, comment pouvoir vivre des joutes oratoires, comment trouver leur propre style, comment trouver leur éloquence personnelle, mais aussi... on leur donne un bagage, un trésor culturel. Et c'est aussi pour cela que dans l'art oratoire, nous prenons autant de temps, outre toutes les techniques de communication et d'éloquence que nous donnons, en même temps, nous prenons le temps de transmettre beaucoup de textes d'écrivains, de littérature, de poètes, de philosophie même. Tant et si bien que quelqu'un qui suit des cours d'art oratoire au Parvis des Arts ou ailleurs, mais en tout cas au Parvis des Arts, va sortir après plusieurs années avec véritablement un bagage culturel, poétique, et aura les moyens, en tout cas, de prendre la parole. Et pour certains, d'ailleurs, ça va aussi loin, par exemple, pour ma collègue Sophie, ça va aussi loin d'arriver à assumer un solo pour dire des textes.
Et aujourd'hui, de donner des cours aussi d'art oratoire. Voilà. Voilà. Donc la transmission a été faite.
Donc toi, Sophie, tu as commencé il y a combien de temps à peu près ?
7 ans.
7 ans, d'accord.
Ouais, tout à fait. Okay. Et donc effectivement, et pour revenir tout à l'heure sur ce que disait Olivier, quand on est sur scène, on ne joue pas pour les personnes qui sont en face, mais on joue avec elles. En fait, il y a vraiment des choses qui se passent. Et tu me demandais tout à l'heure pourquoi, à un moment donné, j'ai pris une décision. Parce que cette intensité-là, cette émotion-là qu'on a quand on est sur scène et qu'on dit un texte, quand le texte vient de l'intérieur et qu'on est juste un passeur de texte, on est juste là pour le faire entendre et qu'on voit qu'en face, il parle aux personnes et qu'il y a des choses qui se passent entre toi et eux, c'est quelque chose de fabuleux. Voilà, c'est pour moi, c'est
un plaisir. Ce que je comprends, c'est que vous disiez aussi que on trouve aussi sa personnalité à travers l'art oratoire, c'est-à-dire quelqu'un, deux personnes différentes avec un texte différent vont l'exprimer de manière différente.
Absolument. Et on laisse paraître aussi la personne que l'on est. Alors, Olivier le dira peut-être mieux que moi, mais c'est la différence avec le théâtre. On ne se met pas dans la peau d'un personnage. On ne joue pas quelqu'un. On est soi-même. Et avec ce qu'on est, avec nos tripes, avec notre cœur, notre tête et nos tripes, on va se mettre au service du texte pour le faire mieux entendre. Mais on est soi-même d'abord. Ouais. Par contre, on n'est pas en avant. Je te laisse peut-être...
Oui, c'est ce que Colette appelait l'effacement éclatant, c'est-à-dire qu'il n'est pas question non plus. Aujourd'hui, on est dans une société où l'ego, ça compte. Or, cette école de l'humilité, d'arriver à dire des textes, sans pour cela essayer d'attirer l'attention sur soi, mais d'ouvrir l'auditoire à une écoute. Je lisais l'autre jour un roman historique sur la vie de Shakespeare. Et il disait que quand Shakespeare sortait une pièce à Londres, en fait, la plupart des gens ne voyaient pas ce qui se passait sur scène. Mais c'était tellement bien écrit qu'ils étaient là, ils étaient debout derrière des colonnes, qu'ils étaient là et ils écoutaient. Ça pouvait durer 2 heures, 3 heures, parce qu'il y avait un autre rapport à la parole, justement.
Très intéressant.
Ouais. Et moi, j'avais une question, c'était par rapport en fait à l'interprétation du texte, parce que du coup, est-ce que vous avez le droit, enfin, comment ça se passe en fait? Parce que quand on lit un texte, il y a forcément une interprétation, tout le monde ne va pas comprendre ce qu'a voulu dire l'auteur, en tout cas les sentiments que l'auteur a voulu mettre de la même manière. Ça, c'est vous qui décidez, comment ça se passe en fait, le ton à apporter au texte?
Oui, alors là aussi... Évidemment, c'est important, ça, pour son propre point de vue, mais il faut faire attention au spontanéisme, c'est-à-dire qu'il y a une espèce de culte de la spontanéité aujourd'hui. On dit du moment que je le sens, ça va. Mmh. Et moi, je lutte par rapport à ça parce que, avant tout, ce qu'il faut essayer de trouver, c'est le phrasé, c'est le style, c'est ce qu'a voulu dire un auteur, un écrivain, par exemple. Alors, c'est différent si on prend la parole en son nom, c'est autre chose. Mais si je sers un texte, j'essaye de ne pas trop m'écouter moi, mais d'essayer, en tout cas, de rentrer dans le phrasé, dans l'intention d'un auteur. C'est pas évident, c'est pas simple du tout. Mais vous n'allez pas dire, par exemple, un texte de Nietzsche, comme vous allez dire un texte d'Arthur Rimbaud, comme vous n'allez pas dire un texte de Virginia Woolf, ça n'a rien à voir. Donc, petit à petit, c'est rentrer, c'est écouter comment la parole se formule. Et ce qui est absolument extraordinaire, c'est de pouvoir... faire advenir d'un texte écrit, tout d'un coup, voilà, c'est dit et dans l'oralité, tout d'un coup, il est servi autrement. On va recevoir, on fait aussi un festival l'été à Lourmarin, un festival des arts de la parole. Et on va recevoir une comédienne de la Comédie française qui va travailler pour un atelier. Et elle se propose à partir des textes de Proust. Alors, il n'y a pas plus écrit que Marcel Proust. Mmh. Franchement, c'est hyper écrit. Et elle dit, on va mettre debout le texte. C'est intéressant. Des textes qui, a priori, sont pensés par tous comme, c'est de la lecture mentale. À travers un travail véritablement d'art oratoire, on met debout le texte. C'est un peu ce que fait, évidemment, Lucchini et beaucoup d'autres. C'est-à-dire, les gens viennent pour écouter tout d'un coup. Combien de gens disent « Mais jamais, jamais, j'aurais lu ça !» Mais tout d'un coup, je l'entends. Et je peux rester des heures, là. Il se passe des choses incroyables.
Ouais, ça me fait... Depuis tout à l'heure, il y a quelque chose que vous avez dit que je souligne, qui était très, très beau, c'est ce lien d'écoute. Et je me dis, est-ce que vous arrivez à faire la différence entre écouter et entendre? Ou est-ce que, finalement, ces deux verbes...
Ah non, c'est pas synonyme. On peut très bien entendre sans forcément écouter ce qui est dit. On peut entendre du bruit. Par contre, on écoute des mots. Et alors, donc la différence pour moi est là. Et c'est vrai que quand on pratique l'art oratoire et les cours d'art oratoire, on dit souvent qu'il est autant important d'écouter les autres et d'écouter ce qui est dit aux autres que de ce que le professeur ou le va pouvoir dire à soi-même, en fait. Donc l'écoute de soi-même et l'écoute des autres est essentielle, et l'écoute de celui qui va pouvoir donner des conseils. Donc pour moi, c'est très différent, entendre et écouter. forcément. Olivier ?
Oui, tout à fait. On peut, bah, écoutez, sur ces termes-là, on peut, mais c'est sûr qu'il y a une écoute active et puis il y a tellement d'écoutes différentes et tellement aussi de manières d'entendre différemment. Mais je pense qu'apprendre à parler, c'est aussi vraiment apprendre à écouter. D'une part, c'est apprendre à s'écouter, déjà, pour commencer. Qu'est-ce que je veux dire ? Peut-être prendre le temps de respirer dans le silence pour écouter là les mots qui viennent. Qu'est-ce que je veux dire ? Est-ce que véritablement ces mots me représentent ? Je les cherche. Et en même temps, est-ce que ces mots que je vais prononcer sont à l'écoute de moi-même et de la personne à qui je parle ? Et vraiment, je reviens sur... vous y revenez et je suis content de revenir là-dessus parce que c'est intimement lié. Il ne peut pas y avoir d'une écoute s'il n'y a pas de, me semble-t-il, en tout cas, s'il n'y a pas recherche d'une parole vraie. On entend, oui, on entend toutes sortes de discours creux. Moi, je suis de plus en plus déçu par la parole publique, par la parole. Il n'y a pas beaucoup. Quand une parole vraie intervient, et on le sent, on l'entend, on est éveillé par ça. Tiens, c'est différent. Tiens, c'est pas une espèce de mousseline là, de politiquement correct ou de religieusement correct, chose qu'on entend partout. Mais tout d'un coup, ça parle. Ça parle différemment. C'est vrai. On a envie d'être là. On a envie d'être présent. Et donc, encore une fois, il n'y a pas d'écoute vraie sans parole vraie. Et voilà.
Est-ce que le silence, il fait aussi partie du jeu ? Est-ce que les silences sont importants ? J'ai eu l'impression que oui, pour avoir suivi un de tes cours, qu'il y a la parole, l'écoute et il y a le silence qui prend aussi tout son sens.
Oui, parce que le silence est terriblement éloquent.
Et d'ailleurs, les silences, il n'y en a pas beaucoup dans notre société où il y a beaucoup de vacarme et qu'il fait du bien.
Mais c'est dans tous les... Dans tous les arts, me semble-t-il, là aussi, c'est une forme de parvis. C'est-à-dire que pour entrer dans une expression, dans un événement artistique, il nous faut du silence. Parce que la parole vraie ne peut naître que du silence. S'il n'y a pas du silence, il n'y a rien qui peut arriver. Et il ne faut surtout pas avoir peur du silence, de son propre silence. Ne pas avoir peur tout d'un coup. Et ça, vous savez, c'est un vrai problème parce que pour beaucoup d'entre nous, quand nous commençons le travail de l'art oratoire, on a tellement peur tout d'un coup de ne pas maîtriser. Donc on essaye de remplir avec des mots, surtout pas de silence. Or, le silence est essentiel. On a besoin du silence pour prendre la parole et on a aussi besoin du silence pour écouter. C'est essentiel. Et pour moi, le silence est fortement lié aussi à la respiration, parce qu'on ne sait plus respirer. Donc le silence, c'est le moment où on se pose, on respire, on souffle.
Parce qu'un cours d'art oratoire commence par des travails de respiration, c'est ça ?
De respiration et de silence, souvent. On commence déjà par se mettre dans le silence, à s'écouter soi-même, respirer pour retrouver son intériorité, faire évacuer tout ce qu'on a pu emmagasiner toute la journée. Et effectivement, la respiration est essentielle. Et donc, on fait beaucoup de travail là-dessus, sur de la respiration, sur comment sortir les mots, comment la respiration va pouvoir nous aider. Effectivement, respirer au bon moment du texte pour le faire entendre. Et le silence, j'y reviens, effectivement, c'est essentiel. Souvent, en exercice avec les personnes qui débutent, effectivement, elles ont l'habitude de beaucoup parler ou bien entre deux phrases, faire « Effectivement, et au lieu de ces mots parasites, si simplement on pose un silence, c'est pas grave. On ne sait pas ce qu'on va dire après, c'est pas grave. On se pose, il y a un petit silence qui vient, on prend le temps de réfléchir et on recommence après. » Et oui, pour revenir sur ce que tu disais, la respiration est plus qu'essentielle. On fait de grands exercices de respiration ventrale, costo abdominale.
Et pourquoi vous pensez que le silence, souvent, il peut être gênant ? Je me suis posé la question, pourquoi il est aussi gênant ? Souvent, ça gêne le silence, alors qu'il a son rôle, en fait, mais il nous gêne.
Oui, mais parce que je pense qu'on est passé depuis plusieurs années maintenant dans une société du bruit. Il faut qu'il y ait du bruit. Et la parole devient simplement l'occasion de faire du bruit. Moi, je le regrette vraiment. Et donc, c'est gênant parce que si tout, qu'il y a quelque chose dans le silence qui est une non-maîtrise. C'est-à-dire quand je... Tout d'un coup, là, et même à la radio, c'est, voilà, il faut remplir ce silence, il faut vite le remplir. On peut pas nous laisser comme ça, les uns les autres, dans une espèce de non-maîtrise.
En suspens.
Et accepter de ne pas maîtriser, accepter dans un silence de ne pas forcément savoir les mots qui vont venir, mais de les laisser advenir, alors c'est des belles et de grandes choses qui sont à vivre.
Sachant que quand on est également en échange sur un plateau avec un auditoire, évidemment, il n'y a pas que la voix, parce qu'on travaille le regard, la posture, et dans un silence, il y a bien d'autres choses que la voix qui peuvent dire des choses et créer un échange avec les personnes qui sont en face.
Clairement.
Ça doit être très beau de voir l'évolution des personnes débutantes que vous devez recevoir, et, parce que j'ai l'impression, dans ce que j'entends, qu'il y a une évolution même dans la personnalité, quoi. On apprend à se connaître, en fait, à travers tout ça. Et si justement on arrive à dompter un petit peu ces silences et qu'on arrive à dompter comment on a envie de s'exprimer et sa voix, même là, moi, je fais vachement beaucoup plus attention parce que je me dis qu'en effet, moi, je pense avoir peur un peu des silences. Et vous me donnez presque envie d'en prendre plusieurs, là.
Oui, alors l'évolution, vous parlez de l'évolution des personnes, c'est un encouragement important. Car d'année en année, en tout cas quelqu'un qui s'adonne véritablement aux différentes pratiques, aux différentes lectures, aux différentes expériences, eh bien, cette personne-là évolue. Mmh. Mais je dis bien, ce n'est pas sa parole qui évolue, c'est sa personne.
Et, oui.
Et c'est là où l'art oratoire dépasse complètement le développement personnel. Évidemment, c'est un travail de développement personnel, mais il y a un moment où la personne elle-même accepte de s'effacer un peu pour faire entendre des textes, etc. Donc c'est grandiose, c'est véritablement l'avènement, j'allais dire souvent, de voilà, c'est comme si une personne devenait une cathédrale, ça résonne de partout, c'est beau, c'est grandiose et c'est très encourageant.
Moi, j'avais une question, mais vous y avez presque déjà répondu avec toute votre passion que vous êtes en train de nous transmettre là, parce que vraiment, ça respire la passion, ce que vous nous racontez. Mais c'était par rapport, en fait, à l'impact que ça avait, en fait, dans votre vie ou par rapport à vos étudiants, l'impact que ça a dans leur vie personnelle, en fait. Parce que ne serait-ce que bien s'exprimer en public, c'est pas quelque chose qui est facile. Et quand on arrive à maîtriser les mots, etc. Alors, vous nous avez parlé à travers un texte, mais est-ce qu'il y a aussi un chemin qui se fait dans la parole avec l'autre et comment on interagit dans la société ?
Vas-y.
Je dirais ce que je formulais tout à l'heure en disant une parole vraie, mais avec nos proches, tous les jours, autour d'un repas, quand aussi nous sommes tellement les uns et les autres, me semble-t-il, dans des circuits de communication, dans les couples, dans les familles. Si tout d'un coup nous étions devant les textes que nous disons chaque jour, c'est à peu près toujours les mêmes formules répétitives, ça ne parle que si peu, ça parle si peu. Ça a été d'ailleurs largement caricaturé dans le théâtre contemporain, dans la critique justement de ces espèces de routines de communication où presque rien ne se dit. Or, je pense que véritablement, travailler sur la valeur, sur le sens, sur la sensualité des mots, sur l'importance de chercher une parole vraie, eh bien, ça change les relations entre les personnes résolument. Et très souvent, après un atelier, je dis, vous savez, l'art oratoire, c'est la vie quotidienne qui est un gymnase où nous pouvons nous entraîner tous les jours. Vous rentrez chez vous, qu'est-ce que vous allez dire à votre compagnon, à votre compagne, qu'est-ce que vous allez dire à vos enfants tous les jours. Vous pouvez travailler cette question de choisir les mots, les bons mots, Et donc, c'est pour ça que c'est une évolution pour une existence entière.
Surtout que la langue française, elle nous permet d'avoir un panel de mots pour beaucoup d'émotions. On peut décrire beaucoup de choses avec cette langue.
Ah, merci. Merci. Mmh. Vous savez que c'est Albert Camus qui disait « Ma patrie, c'est la langue française ». Et moi, c'est mon amour de la France. Il passe avant tout par la langue française. Et c'est un amour de la langue aussi que nous développons à travers notre maison des arts de parole.
Et peut-être pour illustrer ce que vous y faites au Parvis, pour nous décrire, enfin pour illustrer oui, l'art oratoire, est-ce que vous avez envie de nous lire peut-être un texte?
Oui, maintenant.
Bah, peut-être maintenant, parce qu'on arrive
déjà,
presque
c'est passé très
fin
vite.
De démission.
C'est passé très très vite.
S'il nous reste du temps, on a plein d'autres questions.
Alors, je crois que le hasard fait que nous avons choisi le même auteur, le même écrivain tous les deux, qui est Victor Hugo. Alors, peut-être qu'Olivier nous dira un mot de Victor Hugo, mais pour nous, en tous les cas, moi, c'est un grand plaisir.
Vous n'êtes pas concerté, en fait.
On ne s'est pas concerté. Tout à l'heure, je lui ai fait un petit message en lui disant « Qu'est-ce que tu penses dire ?» Donc, il m'a donné le titre du texte qu'il va dire, et c'est Victor Hugo, et moi aussi. Génial. Alors, moi, c'est « Ce que dit la bouche ». Crois-tu que l'eau du fleuve et les arbres des bois, s'ils n'avaient rien à dire, élèveraient la voix? Prends-tu le vent des mers pour un joueur de flûte? Crois-tu que l'océan qui se gonfle et qui lutte serait content d'ouvrir sa gueule jour et nuit pour souffler dans le vide une vapeur de bruit et qu'il voudrait rugir sous l'ouragan qui vole si son rugissement n'était une parole? Crois-tu que le tombeau d'herbe et de nuit vêtue ne soit que rien qu'un silence? Et te figures-tu que la création profonde, qui compose sa rumeur des frissons du lys et de la rose, de la foudre, des flots, des souffles du ciel bleu, ne sait ce qu'elle dit quand elle parle à Dieu? Crois-tu qu'elle ne soit qu'une langue épaissie? Crois-tu que la nature énorme balbutie, et que Dieu se serait dans son immensité donné pour tout plaisir durant l'éternité d'entendre bégayer une sourde muette? Non, l'abîme est un prêtre et l'ombre est un poète. Non, tout est une voix et tout est un parfum. Tout dit dans l'infini quelque chose à quelqu'un. Une pensée emplit le tumulte superbe. Dieu n'a pas fait un bruit sans y mêler le verbe. Tout comme toi gémis, ou chante comme moi, tout parle. Et maintenant, homme, sais-tu pourquoi tout parle? Écoute bien. C'est que vent, onde, flamme, arbre, roseau, rocher, tout vit. Tout est plein d'âme.
Merci Sophie.
Merci.
Eh oui. Donc,
je suis émue. Ouais, ça embellit beaucoup le texte. Hein. C'est pas du tout la même sensation que, par exemple, si j'avais lu le. Non, mais il y a quand même un truc. Un peu...
Puis il y a le regard aussi.
Un peu plus magique, quoi.
Il y a le regard qui fait beaucoup. T'as raison. Ouais.
Merci, Sophie.
Et Victor Hugo fait partie des écrivains qui carrément a dit. Quand il écrivait aussi combien le son avait un lien avec le sens et combien il était en rapport lui-même avec l'oralité. C'était lui-même d'ailleurs un très grand tribun. Il disait ses textes. C'est pas du tout un poète de l'écrit, mais un homme de l'oral. Il disait de lui-même, il disait « Je suis une force qui va ». Et c'est immense, c'est dans Hernani ça. « Je suis une force qui va ». Et c'est vrai que quand on s'intéresse à Victor Hugo, on se rend compte qu'il y a plusieurs Victor Hugo. Alors là, on vient de lire un extrait de « Ce que dit la bouche d'ombre ». Ça a été écrit sur l'île de Guernesey, après qu'il ait toutes sortes d'intuitions par rapport à la présence du monde invisible. Et en fait, on entend dans ce texte ce texte-là, on entend aussi ce lien qu'il pose toujours entre la nature et la parole. La parole est partout et ça, il le sent vraiment très fort. Et puis, pour aller dans quelque chose peut-être d'un peu plus drôle, un texte aussi peut-être plus connu. Donc, c'est le mot de Victor Hugo, tout simplement, qui nous parle à la fois de la rumeur, qui nous parle de ce que nous faisons quand tout d'un coup, nous entendons une confidence, eh bien, c'est le mot. Braves gens, prenez garde aux choses que vous dites. Tout peut sortir d'un mot qu'en passant vous perdîtes. Tout. La haine et le deuil. Et ne m'objectez pas que vos amis sont sûrs et que vous parlez bas. Écoutez bien ceci. Tête à tête, en pantoufles, porte close, chez vous, sans un témoin qui souffle, vous dites à l'oreille au plus mystérieux de vos amis de cœur, ou, si vous l'aimez mieux, vous murmurez tout seul, croyant presque vous taire dans le fond d'une cave, à 30 pieds sous terre, un mot désagréable à quelque individu. Ce mot que vous croyez qu'on n'a pas entendu, que vous disiez si bas dans un lieu sourd et sombre, cours, à peine lâché, pars, bondis, sors de l'ombre. Tenez, il est dehors, il connaît son chemin, il marche, il a deux pieds, un bâton à la main, de bons souliers ferrés, un passeport en règle, au besoin il prendrait des ailes comme l'aigle. Il vous échappe, il fuit, rien ne l'arrêtera, il suit le quai, franchit la place, etc. Passe l'eau sans bateau dans la saison des crues et va tout à travers un dédale de rue, droit chez le citoyen dont vous avez parlé. Il sait le numéro. Il a l'étage. Il a la clé. Il monte l'escalier, ouvre la porte, passe, entre, arrive et... railleur, regardant l'homme en face, dit « Me voilà !» Je sors de la bouche d'un tel. Et c'est fait. Vous avez un ennemi mortel.
Alors, vous n'êtes pas en studio avec nous, mais le corps parle aussi. Il y a la voix et il y a le corps, et il y a le regard.
Bien sûr.
Eh oui. Ouais.
Ça donne envie de prendre tout de suite un cours avec vous. On arrête l'émission.
Demain ou mercredi, si vous voulez. Ouais. Les cours sont ouverts.
Mais c'est vrai qu'en plus, il y a ce lien avec le théâtre, avec le texte. Et puis, j'avoue, moi, je n'avais jamais entendu parler de l'art oratoire avant l'émission qu'on avait fait avec Sophie. Et du coup...
Sur le Festival des Arts de la Parole à Lourmarin.
Ouais, c'était il y a quelques mois.
En juin dernier, c'est ça.
Et c'est très intéressant, en fait. C'est une pratique qui n'est pas très connue, en fait.
Dont on entend parler peut-être de plus en plus, alors qu'on mélange beaucoup avec l'éloquence, hein, comme on disait. Et en fait, nous, on tient à dire que ce n'est pas exactement la même chose, quand même. Il y a tout ce travail sur les textes qu'on fait dans nos cours qui n'existent pas forcément ailleurs. Pour nous, c'est une grosse...
Parce que donc, vos appuis, ce sont des textes, vraiment, vous travaillez à partir de textes.
Oui. On travaille des techniques, mais on les met en application dans les textes, ou alors c'est en travaillant les textes qu'on fait apparaître les techniques et qu'on les explique et qu'on les fait passer aux élèves.
Et en même temps, encore une fois, il y a aussi une partie éloquente, d'éloquence, où on demande aux personnes de prendre la parole en leur nom.
Et oui, d'accord.
Et le fait d'avoir une culture d'orateur permet que chacun puisse avoir ce qu'on appelle des îles d'éloquence. C'est-à-dire que si vous connaissez une maxime, une phrase, un extrait de tel auteur, vous pouvez jouer avec ça. Il y en a un qui est spécialiste, vous le savez bien, c'est Fabrice Lucchini, qui ne cesse de faire des citations. Mais encore une fois, on ne peut faire des citations que dans la mesure où on a soi-même vécu dans ces textes.
On peut peut-être dire que c'est un réel plaisir. Alors moi, maintenant, je suis loin d'en connaître autant qu'Olivier, mais je commence à avoir plusieurs dizaines de textes que je connais par cœur. Et quel plaisir, en fait, de... je sais pas, j'étais à la montagne, je me promène quelque part, et au lieu... Ou même à la maison, au lieu de regarder bêtement des choses ou quoi, je me dis les textes comme ça, tout seul, ou en marchant dans la nature, effectivement, les textes qui reviennent. Et c'est un plaisir immense, quoi, d'être accompagné de ces auteurs tout le temps. C'est vraiment...
Est-ce que vous pensez qu'il y a un petit côté un peu méditation derrière ?
Je sais pas.
Oui, je pense qu'on peut méditer ces textes. Alors, vous savez, il y a toutes sortes de témoignages dans les pires situations de vie. Les personnes qui sont en fin de vie, aussi des personnes en camp de concentration. On a toutes sortes de témoignages, par exemple, que ceux qui ont pu résister. Par exemple, on sait que dans certains camps de concentration, il y avait certains rabbins en particulier, on les appelait des bibliothèques vivantes. Parce que ils avaient en eux tellement de textes, on allait les voir pour entendre. Et ceux qui ont résisté, ceux qui résistent dans les moments les plus terribles, ce sont ceux qui savent qu'à l'intérieur d'eux, il y a toutes sortes de paroles qui sont là et qu'ils peuvent faire revenir. J'ai toutes sortes d'exemples que je pourrais vous donner à quel point c'est important de devenir peu à peu des bibliothèques vivantes.
Et quel est l'artiste contemporain ou plus classique qui vous ébranle le plus ou en tout cas que vous aimez lire? Parce que là, vous nous avez choisi Victor Hugo tous les deux. Mmh. Est-ce qu'il y en a un autre femme ou un homme?
Alors, je ne veux absolument pas manquer de respect à votre question, mais c'est une question très intéressante. Mais franchement, en fait, j'ai renoncé au comparatif. C'est-à-dire, renoncer au comparatif, c'est dire que, en fait, il y a la littérature, la poésie, c'est comme une immense carte de géographie. Et sur une carte, vous voyez, il y a des montagnes, il y a des fleuves, il y a des rivières, il y a des prairies. Vous allez d'un endroit à l'autre, vous allez, voilà, vous voyagez. Et en fait, je pense que certains auteurs ou certains écrivains, à certains moments de notre vie, on en a particulièrement besoin. Et parfois, on y revient des années après. Vous avez lu Arthur Rimbaud à 16-17 ans, il vous a fait beaucoup de bien, puis vous l'avez laissé de côté. Puis tout d'un coup, vous y revenez et vous sentez bien que l'expérience de lecture, parce que je reviens toujours sur ce mot d'expérience qui est extrêmement important, eh bien, tout revient. Tout revient et puis tout peut revenir de manière très différente. Donc en fait, j'ai ce rapport aux écrivains, aux poètes qui ne cessent de bouger. Et certainement, la réponse que je vous donnerai aujourd'hui ne sera pas celle que je vous ai donnée il y a un an, que je vous donnerai. Ça change tout le temps. Et c'est ça qui est beau.
C'est-à-dire que vous restez surpris aussi.
Oui.
Toi aussi, Sophie, c'est pareil.
Oui. Alors, si je devais citer un contemporain là, moi, qui me parle beaucoup, c'est Pascal Rambert. Parce que c'est une écriture totalement différente de ce qu'on peut lire. Mais voilà, effectivement, dire aujourd'hui, même dans les classiques, quel va être l'auteur que je préfère, je ne sais pas. Parce qu'effectivement, selon les jours, selon les humeurs, ça peut changer.
Et on arrive bientôt en fin d'émission. Est-ce que le Parvis des Arts a une actualité que vous aimeriez mettre en avant?
Oui, alors peut-être très rapidement expliquer ce que va être la Maison des Arts de la Parole, Olivier, en juste quelques mots, et puis dire ce qui va se préparer en janvier. Nos rendez-vous?
Oui, la Maison des Arts de la Parole, c'est donc ce cycle de formation qui déjà... Dans ce trimestre, vous avez tous les lundis soirs, pour ceux qui le souhaitent, un atelier d'écriture. Le mardi soir, vous avez un de 19h30 à 21h.
19h à 21h30,
pardon. Vous avez un atelier donc, de prise de parole avec Sophie, qui a une initiation pour les débutants à l'art oratoire. Et puis, le mercredi soir, vous avez un travail d'art oratoire, une proposition d'atelier avec moi-même, donc de 19h aussi à 21h30. Nous avons lancé durant ce trimestre, tous les mois, une scène ouverte. Tu peux en parler?
Alors la scène ouverte, c'est pour donner la parole à tous. Donc les personnes qui ont envie peuvent venir, 15 créneaux, 5 minutes, ils s'inscrivent et ils offrent aux personnes qui sont là un texte, une chanson, un poème qu'ils ont appris, qu'ils ont envie de dire, de lire. Et donc c'est vraiment pour ce partage. Donc ça marche très très bien. On en a une par mois, effectivement. Et puis on a les masters.
La prochaine date, c'est laquelle?
C'est le 15 décembre.
15 décembre.
Et c'est déjà complet, les artistes.
Ah non,
ouais. Alors mais vous pouvez venir voir, c'est complet pour ceux qui vont passer sur scène, mais vous pouvez venir les écouter. Et la prochaine aura lieu en janvier.
Oui, et ça répond déjà à la question qui était posée tout à l'heure. Est-ce qu'il y a un engouement? Ben là, oui. On le voit parce que je peux vous dire qu'il y a plusieurs théâtres à Marseille qui proposent des scènes ouvertes chaque mois. Elles sont pleines, ça marche. Et donc, il y a véritablement une volonté de prendre la parole, de dire des textes, sa parole ou la parole d'autres écrivains. Mais en tout cas, s'il y a ce désir-là qu'on retrouve. Alors, les scènes ouvertes.
Les masterclass, également une fois par mois, alors animés par Olivier. C'est une journée complète, un samedi, pour travailler sur un auteur. C'était Shakespeare le mois passé. Et là, on va se faire les contes zen le 9 décembre. Et puis, on aura Dostoïevski en janvier. Et puis, ça va suivre comme ça. Et puis en janvier, donc la programmation commence. C'est le premier rendez-vous qu'on peut vous donner si vous voulez venir. C'est le 20 janvier. Donc Olivier et moi-même, nous dirons des textes de Jules Isaac et sur Jules Isaac. Tu veux dire un mot de qui est Jules Isaac, peut-être ?
Bah, c'est un historien et un homme qui a travaillé en particulier sur les racines de l'antisémitisme dans l'Occident chrétien. Et qui a des textes magnifiques.
Voilà, donc des correspondances avec sa femme, des choses qu'il a écrites pendant la guerre. Donc c'est le 20 janvier, donc un premier concert de textes.
C'est noté.
Je vous parlais tout à l'heure de mon amour de la psychanalyse. Oui. Alors je viens de sortir un livre, ça c'est notre actualité, un livre qui est en vente, que vous pouvez trouver dans toute bonne librairie. Ça s'appelle Passion 2. Psychanalysée. C'est des entretiens entre une psychanalyste extraordinaire qui aujourd'hui est décédée et votre humble serviteur. Donc c'est ce livre.
Et on en parlera le 27 janvier au Paris.
Le 27 janvier, c'est
tout. Oui, il faut y aller. Bien dense. Il faut aller au Paris des Arts. Merci beaucoup. L'écoute comme élément essentiel de nos relations humaines, indispensable pour mettre du sens dans sa vie et nos aspirations, et puis pour mettre du lien entre nous. Merci à nos invités Sophie et Olivier, merci beaucoup. On va terminer notre émission avec une musique que vous avez choisie. Est-ce que vous pouvez nous dire quel est le titre et pourquoi ?
Alors oui, le titre, vous le connaissez, c'était Simon & Garfunkel, c'est The Sound of Silence. Le son du silence est à l'intérieur de ce magnifique chant. Il est dit que beaucoup de gens parlent et pas beaucoup de gens écoutent. Et c'est magnifiquement chanté par un groupe vocal, de musique vocale que j'apprécie beaucoup, qui s'appelle Voce 8.
Merci.
Belle écoute. Merci.
Bonne soirée.
Hello, darkness, my old friend. I've come to talk with you again because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping. And the vision that was planted in my brain still remains within the sound of silence. In restless dreams I walked alone, narrow streets of
silence. Full silence.